Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 1. Un souper avec l'abbé Hubertet. Monsieur Laverdon était un homme important. On s'accordait à lui reconnaître de la mine, de la tournure et même du raisonnement, car il accommodait quelques-unes des meilleures têtes de Paris. Il ressentait vivement l'honneur qu'elle lui faisait en passant par ses mains, qui n'avaient belles et dont il prenait grand soin, disant qu'elles étaient l'outil même de son métier. Son mérite lui valait une clientèle illustre et considérable. Il se targuait de connaître les hommes et se prétendait philosophe. On lui en cédait la prétention, car personne ne savait mieux que lui disposer avantageusement une perruque, la boucler, la friser ou la rouler. S'il prenait quelque vanité de son adresse, il en tirait encore davantage de l'emploi qui lui avait été donné d'en faire, et il énumérait avec complaisance les plus notables coiffures de sa longue carrière. Entre elles, il en distinguait quelques-unes de particulièrement considérables et qui, selon son expression, importaient au salut de l'État. C'est ainsi qu'il rappelait volontiers qu'il avait eu l'honneur de coiffer de tout temps Monsieur le maréchal de Beaufort, dont les défaites célèbres assurèrent le rang et établirent la renommée, et que Monsieur le chancelier de Valbin n'aurait point voulu laisser à personne autre le soin de l'accommoder au jour de cérémonie. Comme tous les bavards, M. Laverdon avait son anecdote de prédilection. Elle touchait à M. le duc de Tardenois, qu'il avait fait appeler un matin et qui fut ministre le soir, dura 7 ans, jusqu'à la lettre de cachet qu'il exila en ses terres, pour où partant, il fit attendre son carrosse, malgré l'ordre pressant du roi, tant que Laverdon n'eut point fini de le poudrer et de le mettre à point. Si M. Laverdon prenait vanité de ces hautes circonstances, il en était de moins public dont il se souvenait volontiers, et son peigne, pour avoir été au service de l'histoire, n'en restait pas moins au service de l'amour. Il prisait sa clientèle d'hommes à la mode. Leur bonne fortune le rendait fier. Il les suivait d'un regard ému et s'en tenait fort au courant. C'est en cette galante compagnie qu'il rangeait le jeune monsieur de Portebise. « Je ne crois pas qu'il aille bien haut dans la gloire, disait-il, mais il ira loin dans l'amour. » Aussi mettait-il grand soin à le contenter, encore qu'il fût récent à la ville, sans aucune aventure marquée qu'il eût pu mettre en valeur, mais il augurait bien de lui, le jugeant jeune, bien tourné et passablement riche. Si M. Laverdon aimait l'argent chez les autres, il ne le dédaignait pas pour lui. À l'aise et tout en demeurant à son rang, il entendait le bien tenir. Il s'habillait avec recherche et décence et portait au petit doigt un solitaire de fort bonne taille. C'était dans ce costume que M. Laverdon se tenait debout ce jour-là au dossier du fauteuil où François de Portebise était assis, en peignoir, à sa toilette. M. Laverdon tournait autour de lui, ajustait une boucle, clignait de l'œil, puis il recula de 3 pas. Il ne restait plus qu'à poudrer. Laverdon y excellait. Certes, ses perruques étaient bonnes et du meilleur goût, mais sa poudre surtout était incomparable. On reconnaissait un homme poudré par Laverdon à je ne sais quoi de discret et d'audacieux, de subtil et de hardi, d'improvisé et de définitif. Monsieur de Portebise se tenait le visage caché dans un long cornet de carton. Il attendait. Monsieur Laverdon rôdait à pas furtifs, sa boîte à la main, la houppe levée. Ce fut d'abord un voltigement impalpable. La perruque blonde blanchit légèrement. Laverdon allait et venait, tantôt avec de grands gestes, tantôt avec de petits mouvements. Ses escarpins craquaient. Un nuage blanc s'épaississait peu à peu, odorant et mobile. La grosse houppe y produisait des tourbillons. Lentement, délicatement, la nuée en suspens retombait et finit par se dissiper dans un silence sans lequel M. Laverdon eût craint sans doute de troubler cette magique opération. Puis, sur la pointe des pieds, il alla vers la toilette, y prit un petit miroir dont il essuya du coude la glace saupoudrée et, mystérieusement et à voix basse, dit un mot à l'oreille de M. de Portebise qui, le nez hors du carton, se leva et laissa tomber son peignoir, tandis que M. Laverdon, après avoir salué, s'esquivait, l'air encore tout pénétré du prodige qu'il venait d'accomplir. François de Portebise restait toujours debout, le miroir à la main, et s'y regardait avec complaisance. Son visage, soigneusement rasé, lui parut agréable par sa peau fraîche et son teint vif. Il le jugea digne de plaire aussi bien aux autres qu'à lui-même, d'autant plus que son habit était du bon faiseur et sa coiffure réussie. Depuis son arrivée à Paris, il se sentait parfaitement heureux. Sa mère avait refusé de l'y suivre et de quitter la solitude de Bas-le-Pré. Elle alléguait ses habitudes d'une vie rustique et tranquille. De même, elle repoussa l'offre d'habiter Pontaubel, où elle eût trouvé, en même temps qu'un séjour propre à ses goûts, des commodités de toutes sortes, tant en appartement qu'en jardin, que son fils proposait de faire remettre en état si elle voulait leur faire l'honneur d'en user à sa convenance. Il était encore tout plein de sa visite d'héritier à Pontaubel, d'où il était venu droit à Bas-le-Pré et ne cessait de vanter à sa mère les avantages et les agréments du lieu quand elle l'interrompit dans sa louange. « Ne me parlez pas de cet endroit, monsieur, lui dit-elle. Je le connais d'avant que vous soyez né et ne me sens aucun désir de le revoir, même vide des sots qui l'habitaient. Votre grand-oncle Nicolas était du nombre, et sa sotte mère aussi. Leur souvenir m'en gâterait le séjour, et je reverrai toujours le spectre de cette vieille dévote et la mine de son Jeannot de fils. Je me demande encore ce que pouvait bien lui avoir appris son précepteur, une sorte de gros abbé qui était là quand j'y vins petite, et qui s'appelait, je crois, Hubertet. Il s'est, dit-on par la suite, acquis quelque réputation dans les sciences. Mais tout cela date de bien loin, monsieur, avait ajouté Madame de Portebise en posant sur son assiette l'aile d'une volaille que servait sur un grand plat Jean, le petit laquais, dont les doigts rouges se cramponnaient au rebord de la faïence. Monsieur de Portebise avait bien essayé de revenir sur le compte de Monsieur de Galando, mais sa mère y avait coupé court. Laissons cela, monsieur, et laissez-moi vous dire que votre oncle ne m'intéresse point et que nous en savons la seule chose qui nous puisse importer, puisqu'elle vous concerne. Il a fait, en mourant, ce qu'il pouvait faire de mieux, puisque sa mort fait de vous un seigneur d'importance. Et il me semble même, puisque nous en sommes là, que vous tardez bien à jouir de votre nouvelle fortune, car vous ne pensez pas employer les loisirs qu'elle vous donne à tenir compagnie à une vieille femme de province qui vit à la paysanne du produit de sa terre et du fruit de son jardin, non plus qu'à vous casser la tête au sujet d'un bonhomme que vous n'avez jamais vu. Vraiment, mon fils, vous vous embarrassez là de soins inutiles. Pour ce qui m'en regarde, je vous tiens quitte. Mais reprenez de cette volaille. Elle est cuite à point et le petit laquais vous la va repasser pendant qu'elle fume encore. Elle vient d'une de vos fermes. C'est là que je l'ai fait prendre, car les miennes n'en nourrissent pas de pareil et les domaines qui vous échoient de Monsieur de Galando valent mieux que ceux dont vous hériterez jamais de moi. L'oncle Galando laissait en effet de fort bonnes terres, mais moins d'écus comptants qu'on y eût pu compter. Monsieur Lobin, successeur de Monsieur Levasseur, en avait averti Monsieur de Portebise quand celui-ci le vint voir au sujet de la succession de son oncle. Le notaire lui avait appris que Monsieur de Galando, après de longues années d'économie et une épargne considérable, l'avait presque entièrement dissipé sur la fin de sa vie, en somme à lui payer à Rome entre les mains d'un monsieur d'Alfi banquier. Malgré ses brèches, la cassette contenait encore de beaux deniers et la source en restait intacte. François se fournit du nécessaire, prit congé de sa mère et fit route vers Paris où il débarqua le cœur léger et les poches pleines. Son premier soin fut d'acheter une maison. Il la choisit rue des Bons Enfants, proche le palais royal, commode et pas trop grande. Il en meubla l'intérieur de bons meubles, l'écurie de bons chevaux et la remise de bons carrosses. Son cocher fut gros et robuste, adroit à bien conduire et à éviter les embarras et les bourbiers. Ces deux laquais savaient leur métier. L'un se nommait Basque, l'autre Bourgogne, quoiqu'ils fussent l'un Picard et l'autre Auvergnat. Ils portaient bien la livrée et en montraient les vices ordinaires, qui sont la platitude et la friponnerie, la sournoiserie et l'arrogance. En cet équipage, Monsieur de Portebise battait Paris à son gré, du cours au boulevard et partout où il lui plaisait d'aller. Il dormait tard dans un lit moelleux, étonné de ne plus entendre la cloche qui, au dortoir du collège de Navarre, le réveillait dès l'aube, ni la boutecelle qui, au régiment, le mettait debout à l'aurore, les pieds aux étriers, la bride en main, en compagnie de ses amis, messieurs de Créange et d'Oriocourt. Tout lui semblait à souhait. D'ailleurs, Paris, ce jour-là, était clair et pimpant. Un froid assez vif achevait de sécher la boue. Le soleil brillait. Les rues étaient animées. Il regardait par les vitres givrées des portières les carrosses qui croisaient le sien. Il apercevait des hommes élégants et des femmes parées. La disposition de sa journée lui paraissait particulièrement heureuse. Divers achats la devaient occuper. Il imaginait déjà les sourires engageants des jolies vendeuses. Ensuite, il se rendrait chez madame la comtesse de Gurcy, qui prétendait avoir des bontés pour lui. Madame de Gurcy demeurait rue des Filles Saint-Thomas-du-Louvre. Il rencontrerait sans doute chez elle son amie madame de Meillanc, qui lui plaisait davantage et à qui il plaisait également, car on s'occupait beaucoup du cœur de monsieur de Portebise. Il se voyait l'enjeu de coquette rivale et, sentant sa valeur de nouveau venu, il se marchandait fort et entendait bien ne débuter qu'avec un éclat que madame de Gurcy n'était pas plus en état de lui offrir que madame de Meillanc ne se trouvait en mesure de le lui donner. Du reste, il ne se hâtait point et se contentait avec des filles. C'est à elle qui dut la rencontre du chevalier de Gurcy, et ce fut chez elle que les deux jeunes gens, en se retrouvant, tombèrent au bras l'un de l'autre. Ils ne s'étaient point revus depuis le collège, et de ce jour ne se quittèrent plus. Si bien que le chevalier n'eut de cesse qu'il eût conduit son ami chez sa mère. Monsieur de Portebise fut de la maison, et il ne tenait qu'à lui d'être de la famille. Le chevalier trouvait la chose toute naturelle et en plaisantait son ami, qui, malgré les avances marquées de madame de Gurcy, ne se décidait point. Toute la compagnie qui venait chez elle remarquait le cas que faisait madame de Gurcy de monsieur de Portebise et l'usage qu'elle en eût aimé faire. Il voyait là très bonne société. Il y plaisait. On s'y rappelait sa mère, la belle Julie, et son père, le gros Portebise. Mais personne n'en vint jamais à lui parler de monsieur de Galando, et il savait, par monsieur Lobin, que son oncle avait passé à Paris plus de 10 ans de sa vie. Monsieur de Kerby, lui-même, ne lui en fit aucune mention, quoique le vieux gentilhomme fût une gazette vivante et tint tablette, depuis plus de 50 ans, de tout ce qui concernait la cour et la ville, surtout en généalogie. Sa malice savait sur le bout du doigt les origines de tout ce qui comptait au monde et ne se gênait point pour servir aux gens, à l'occasion, les alliances mesquines et les parentés gênantes. Il venait justement aujourd'hui d'en dire une bonne à M. de Valbin, qui ne voyait dans sa maison que feu M. le chancelier, qui l'illustra, et se taisait sur le Valbin qui vendait des herbes et des seringues, il y a 100 ans, au coin de la rue des Trois-Pots, à l'enseigne du Pilon d'Or. Le chevalier, qui goûtait peu ses entretiens, avait pris à part François, et il y est parti d'aller souper le jeudi suivant chez Mademoiselle d'Amberville, de l'Opéra, au lieu d'écouter le petit Valbin rouge de colère qui ripostait à M. de Kerby par quelques aigres propos que le bonhomme se dispensait d'entendre en faisant le sourd, selon sa coutume, ce qui lui permettait de feindre d'ignorer les bruits qui couraient presque à haute voix sur les frasques de Madame de Kerby, dont les 40 ans grassouillets rivalisaient avec ceux plus plantureux de Madame de Gurcy en combat de minauderie auquel M. de Portebise s'obstinait par trop à ne point répondre. Aussi fut-ce sous leurs œillades irritées qu'il prit congé d'elle sans attendre l'entrée de Madame de Meillanc, qu'il rencontra justement dans l'escalier. M. de Portebise descendit d'un pas alerte jusqu'au vestibule où il vit au cadran de l'horloge qu'il était encore de bonne heure et qu'il lui restait le temps d'aller faire visite à cet abbé Hubertet dont lui avait parlé sa mère et dont il s'était procuré l'adresse. Il la dit à Basque, qui fermait la portière et remontait le marchepied. Les chevaux partirent. Le carrosse passa le pont Neuf et, par la rue Dauphine, s'achemina vers la rue Saint-Jacques où demeurait le savant homme.